Jean-Michel Severino, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé dans la politique africaine de la France depuis un an ?
Il y a certainement une incarnation et un engagement beaucoup plus important que ça avait été le cas, en tout cas dans les deux derniers mandats présidentiels précédents, en particulier, mais pas uniquement sur les questions sahéliennes. Et je crois qu'Emmanuel Macron consacre clairement beaucoup de temps, d'énergie et de présence sur le terrain africain.
Et au Sahel, justement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'Emmanuel Macron de désengager la France et de retirer les militaires français d'ici 2 ou 3 ans ?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de désengager la France d'une manière générale, parce que le sujet sahélien est clairement identifié comme étant un sujet de première priorité en termes de développement, en termes de terrorisme, comme en termes de migration. Maintenant, les formes de l'engagement de la France sur ce terrain-là vont forcément varier avec le temps, et il faut clairement espérer que la situation sécuritaire permette d'engager moins les forces françaises sur le plan purement militaire et de travailler davantage avec les instruments de la diplomatie et du développement. Dans cette question sahélienne, on fonctionne avec les fameux 3D, défense, diplomatie, développement. Il est clair qu'il faut que le pilier défense et sécurité pure soit le moins employé possible compte tenu des circonstances.
Les grands projets de développement qui sont déployés dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, est-ce que ce n'est pas illusoire vu la corruption qui règne au Mali ?
Non, les pays de la région ont des institutions qui sont faibles depuis très longtemps et c'est bien connu. Donc la qualité d'exécution des politiques publiques, elle est moins bonne, allez, on va dire qu'en Suisse. Okay. Mais s'il n'y a pas de projet de développement, pas d'investissement, ces appareils institutionnels ne progresseront non plus jamais.
Mais concrètement, Jean-Michel Severino, en 2014, l'Union européenne a injecté 2 milliards d'euros en faveur du Mali. Et 4 ans après, beaucoup disent « rien n'a été fait ». Que sont devenus ces 2 milliards d'euros ?
Alors, c'est vrai que les rythmes d'exécution dans le Sahel sont lents.
Ça fait 4 ans.
Alors, parce qu'effectivement, les administrations ont du mal à mettre en œuvre les appels d'offres.
En l'occurrence, l'administration malienne.
En l'occurrence, l'administration malienne, mais c'est un phénomène qui est vrai de toute la région. C'est vrai du Niger, c'est vrai du Burkina, c'est vrai du Tchad. C'est un phénomène qui est lié à la faiblesse en nombre d'hommes et en qualité technique des administrations et des institutions publiques de la région. Donc on ne peut pas se contenter de financer des grands travaux. Il faut pouvoir faire en sorte que le ministère de l'équipement de tel ou tel pays ou la société des eaux ou la société d'énergie dispose de cadres performants et qu'ils soient capables de travailler. Donc cette construction institutionnelle, qui est fatalement un travail de long terme, elle est indispensable dans cette région.
En privé, l'entourage d'Emmanuel Macron est très critique à l'égard du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous pensez que Paris souhaite une alternance à l'occasion de la présidentielle de juillet prochain ?
Je crois que la seule position de bon sens, c'est de prendre acte de la volonté des peuples. Les Maliens éliront qui ils souhaiteront et la France ne pourra que travailler avec qui les Maliens auront choisi.
Oui, ça c'est le discours officiel, mais en privé, ouais, est-ce qu'il n'y a pas des souhaits quand même ?
Moi, je n'en suis pas au courant. Telle ou telle personne peut avoir tel ou tel avis sur tel ou tel dirigeant, comme n'importe quelle personne, mais je ne peux pas imaginer une position institutionnelle de la France qui soit autre que le fait de prendre acte des évolutions démocratiques. La France n'a pas à se mêler du choix des dirigeants.
Sur les pays en crise politique, comme le Congo-Kinshasa et le Togo, beaucoup d'Africains regrettent l'effacement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez leur point de vue ?
Non, d'abord, je crois que le président se consacre aux priorités. Aujourd'hui, la première priorité, c'est le Sahel. Mais je ne crois pas, par ailleurs, qu'une fois cette priorité traitée, le président soit indifférent et inactif sur tous les autres terrains diplomatiques africains. Mais sa présence, en particulier sa présence physique, elle est moins marquée. Et c'est normal, il ne peut pas être partout.
À l'égard de Joseph Kabila, par exemple, François Hollande ne mâchait pas ses mots. Est-ce qu'il y a un tournant avec Emmanuel Macron ? La stabilité d'abord, la démocratie après ?
Non, je ne crois pas que ça puisse du tout se caractériser comme cela, c'est pas du tout un rebasculement de priorité. Mais nous sommes bien obligés de tenir compte à la fois d'impératifs de démocratie et de droits de l'homme qui correspondent à nos valeurs, et d'autre part, faire attention aux questions de stabilité. Nous sommes partout dans le monde, en tant que démocratie, confrontés à ce dilemme. On l'a bien vu récemment dans les affaires libyennes, on l'a bien vu au Moyen-Orient, et on va continuer à devoir tracer des lignes de compromis et de pragmatisme sur ces sujets.
Voulez-vous dire qu'avec Emmanuel Macron, il y a plus de réel politique qu'avec François Hollande ?
Je suis incapable de formuler un jugement de ce type comparatif entre les deux. Je crois tout simplement que le président est très ferme dans ses valeurs et aussi réaliste sur ce qu'est l'état du monde et ce que nous pouvons faire. Et vous voyez, on s'est parfois engagé de manière véhémente dans des causes qui étaient par ailleurs complètement légitimes. Personne ne pouvait soutenir le régime de Muammar Kadhafi et essayer de soutenir des oppositions démocratiques émergentes était une belle cause et nous voyons tout ce qui est arrivé par la suite. Donc il faut que nous soyons encore une fois très prudents et pragmatiques dans ce que nous pouvons faire.
Sur RFI le 16 avril dernier, le ministre français Bruno Le Maire a dit qu'il était ouvert à des discussions sur le franc CFA, notamment sur le nom de cette monnaie, sur son élargissement et sur le système de dépôt des avoirs. Est-ce la mort annoncée du franc CFA ?
Oh non, je ne crois pas. Le franc CFA, il y a eu des réformes successives, mais il n'a pas bougé dans ses fondements depuis maintenant extrêmement longtemps. Il faut l'adapter au temps qui change. Je crois que cette devise commune entre les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale est très importante en termes de développement. Elle leur apporte des avantages comparatifs significatifs et est importante pour elles. Mais il est important aussi que cette devise soit davantage africanisée, qu'elle soit moins perçue comme la devise de l'ancien colonisateur, ce qu'elle n'est pas. C'est pour ça que je trouve à titre personnel que africaniser sa dénomination, poursuivre l'entreprise d'appropriation et d'africanisation de sa gouvernance qui est engagée maintenant par étapes depuis 30 ans, c'est très important. Mais je trouve que ce serait un véritable retour en arrière s'il y avait une désagrégation de ces unions monétaires.
Faut-il revoir le système de dépôt de 50% des réserves de change auprès du Trésor français ?
Encore une fois, à titre personnel, je pense qu'il est raisonnable d'avoir des assouplissements. Le dépôt de tout ou partie des réserves de change dans un compte sécurisé, c'est une contrepartie légitime à la garantie de parité et à la garantie de convertibilité qui est octroyée par le Trésor français. Maintenant, la question de la quotité de dépôt peut se discuter. Il n'y a pas de pourcentage magique ou scientifique qui peut être calculé. Donc ces 50%, c'est certainement un des paramètres techniques sur lesquels la discussion entre les États de la zone et la France peut bouger.
Et faut-il éventuellement que la future monnaie africaine ne soit plus fixée à l'euro mais à plusieurs grandes devises internationales comme le dollar ou le yen ?
C'est possible. Il y a des avantages et des inconvénients à cette formule. Ce qui me paraît fondamental à propos du franc CFA, c'est que l'Union monétaire ouest-africaine d'un côté et l'Union monétaire Afrique centrale conservent leurs devises communes. Au fond, c'est ça le sujet principal. C'est ce qui est leur, un instrument d'intégration économique et de stabilité particulièrement puissant. Après, toutes les autres formules de fixation du taux de change ont leurs avantages et leurs inconvénients. La formule actuelle, comme toutes les autres que l'on peut imaginer. Donc on est plus dans du domaine, à mon sens, du politique et du symbolique que du véritable impact économique.
Jean-Michel Severino, merci.